des héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sein.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous. Les héroïnes de cette semaine seront consacrées au Liban et aux Libanaises. Lors du dernier festival Rennes au pluriel, rendez-vous de l'égalité et de la diversité culturelle qui s'est tenu en mai, l'association CEDARS a proposé une table ronde autour de quatre femmes. Elles ont entre autres parlé du mariage civil, toujours interdit au Liban. Au Liban, les femmes n'ont toujours pas le droit de transmettre la nationalité libanaise à leurs enfants. Le mariage civil n'est donc toujours pas autorisé et les enfants nés hors mariage sont illégitimes. Les communautés religieuses régissent les relations amoureuses, le mariage, donc la famille, et tout ce qui a trait à l'intime. Le confessionnalisme politique pèse sur toute la société civile. Tout cela pousse de nombreux jeunes gens à vivre leurs amours cachés, à mener une double vie, à mentir sur leur vie amoureuse, afin qu'on ne leur impose ni de se marier dans leur communauté religieuse, ni de se marier tout court. Et c'est bien pire encore pour les membres des communautés LGBTQIA+. Après les événements de l'automne 2019 et les explosions du port de Beyrouth en août 2020, le Liban renaît une fois encore. Mais les Libanais et les Libanaises sont lasses et leur résilience est affectée. Je vous propose de retrouver tout de suite la table ronde organisée par CEDARS.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette belle salle de la chapelle du Conservatoire. Et merci à la ville de Rennes de nous permettre d'être là avec vous ce matin. Cette matinée consacrée au Liban va se dérouler ainsi. D'abord une rencontre avec quatre femmes que je ne vais pas tarder à vous présenter autour de la question du mariage civil pour raconter le Liban actuel, parce que le mariage civil n'est pas permis au Liban et ça va nous permettre de comprendre le Liban actuel et notamment tous les changements impatients, très attendus de son fonctionnement et de son personnel politique et de sa société civile. Cette table ronde, elle sera suivie d'un concert de Liliane Shraïm, accompagnée au piano par Gaëlle Bourgeot, autour du répertoire de la diva Férouz. Cette matinée, elle est donc organisée par une association, elle s'appelle CEDARS, cette association, et je vais demander à son fondateur et président de venir vous dire quelques mots, Rémi Bouchard. Rémi, si je te prête mon micro.
Merci Morgane, merci à toutes et tous d'être présents ce matin. Quelques mots en préambule sur l'association donc CEDARS. C'est une jeune association puisqu'elle existe depuis moins d'un an, en tout cas dans son nouveau, on va dire dans son nouveau format. L'histoire de CEDARS, c'est l'histoire d'une rencontre de personnes, d'envie, de désir, d'échanger, de parler du Liban, des Libanaises, des Libanais, avec un autre angle, un autre regard. Et donc c'est ce qui nous a réunis, en tout cas pour, ben voilà, pour engager en tout cas notre collectif. Donc on poursuit deux objectifs au sein de notre association. C'est d'abord la promotion, on va dire, de la culture libanaise à Rennes, porter un autre regard, une autre manière en tout cas de présenter, d'aborder le Liban par d'autres prismes. Vous allez en avoir une illustration tout à l'heure à travers la table ronde. C'est aussi aider le Liban. Vous savez que le Liban traverse depuis maintenant quelques temps, même depuis plusieurs années, une situation économique, sociale, politique désastreuse. Et donc c'est apporter un soutien. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de travailler au sein de notre collectif, à savoir de quelle manière, donc si c'est dans le champ de l'éducation, la santé ou autre. Donc on est en train de structurer les choses par rapport à ça.
Il est temps que je vous présente nos invités, nos intervenantes. C'était important pour l'association aussi de donner la parole à des femmes ce matin. Je tenais moi aussi à le préciser. Donc, Michela De Giacometti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes italienne, vous êtes docteur en anthropologie sociale, diplômée de l'École des hautes études en sciences sociales, et vous travaillez sur le Liban depuis bientôt 15 ans. Votre thèse, intitulée « Le Liban au miroir du mariage civil, lutte militante, hiérarchie sociale et pratique de ritualisation », démontre comment ce fameux mariage civil est devenu, au fil de l'histoire du Liban, et notamment depuis la fin de la guerre civile, un sujet autour duquel se sont structurées les multiples demandes de déconfessionnalisation de l'État libanais. Et ce matin, vous allez nous aider à comprendre ce phénomène social et politique et ce que cache finalement la demande de légalisation du mariage civil au Liban. À côté de vous, Cathy Aboufara. Bonjour Cathy. Vous êtes libanaise, ingénieure, vous avez travaillé au Liban jusqu'en 2020 où vous viviez. Et c'est l'année aussi où vous avez pris la décision de quitter le Liban et de venir en France, la France où votre père avait vécu 17 ans et où vous aviez fait une partie de vos études. Vous êtes donc arrivée à Rennes avec votre mari et votre fils. Vous y travaillez aujourd'hui, vous êtes ingénieur. Et avant de partir, vous étiez mariée en 2017 à Chypre. Et vous nous raconterez pourquoi vous avez fait ce choix et pourquoi on va se marier à Chypre quand on veut se marier civilement. Et comment ça s'est déroulé. Rouba Kedbe, vous êtes, bonjour Rouba, vous êtes libanaise, vous êtes arrivée en France en 2015 pour poursuivre vos études, vous êtes architecte et doctorante en géographie et aménagement à l'université de Tours. Merci d'avoir fait la route pour être avec nous ce matin. Votre thèse porte sur la production des quartiers informels en banlieue sud de Beyrouth, ainsi qu'à l'accès à l'habitat pour les classes populaires dans la capitale libanaise. Vous avez également co-réalisé un documentaire avec Ania Khoury sur le sujet de votre thèse, et vous témoignerez ce matin de l'influence communautaire et sociale dans la relation amoureuse des jeunes générations libanaises et du rejet par ces mêmes jeunes gens du mariage comme revendication politique. Et enfin, Diane Fardoun, bonjour Diane. Vous êtes franco-libanaise, danseuse et documentariste. Vous vous intéressez au mouvement spontané du corps et comment il découle de nos expériences de vie. Vous avez réalisé l'été dernier un voyage initiatique au Liban pour notamment découvrir le baladi, qui est la danse des femmes du Proche-Orient, et pour préparer votre prochain documentaire sur les cultures de danse à Beyrouth, un documentaire pour lequel vous êtes en pleine recherche de financement. Vous nous raconterez ce que vous avez découvert de ce Liban actuel, des cultures alternatives, progressistes et transgressives qui s'y agitent et qui réclament un nouvel ordre politique et social et qui sont, vous y tenez, avides de divertissement. Je reviens à vous, Michela De Giacometti. Nous allons tout d'abord évoquer les aspects légaux et historiques de cette question du mariage civil au Liban pour bien saisir la question. Alors, c'est pas ma thèse en 180 secondes, mais ça y ressemble quand même parce que Michela, elle a résumé pour nous plusieurs années de travail et d'études afin de faire un état des lieux. Et ma première question est de savoir depuis quand cette demande de légalisation du mariage civil existe au Liban.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je dirais que la question de la légalisation du mariage civil est aussi vieille que l'État libanais, puisque les premières tentatives de légaliser ou d'introduire le mariage civil ont lieu dans les années 20, donc dans la période où le Liban et la Syrie sont sous le mandat français. Et je dirais qu'elles s'inscrivent assez rapidement dans un contexte des tensions intercommunautaires et politiques pour le pouvoir, dans lesquelles se greffe le projet colonial français. La France, qui se trouve donc, suite au démembrement de l'Empire ottoman, confrontée à la gestion de la pluralité confessionnelle, la pluralité communautaire qui existe dans les territoires qui deviendra les territoires du Liban. Et je précise que les communautés, toutes les communautés qui sont présentes sur ce territoire bénéficient déjà d'une certaine forme d'autonomie, déjà sous l'Empire ottoman, une autonomie qui s'émesure aux affaires religieuses, évidemment, ils ont leur autonomie sur les affaires religieuses, mais aussi en tout ce qui sera connu, qui est connu aujourd'hui au Liban sous les termes de statut personnel, c'est-à-dire dans toutes les matières qui relèvent du mariage, du divorce, de l'héritage, de la garde et la tutelle des enfants, donc du droit familial. Donc, c'est dans ce contexte de gestion de la pluralité que les législateurs libanais promus à partir des années 20 toute une série de réformes, y compris des réformes du statut personnel, dans l'esprit de renforcer l'autonomie de ces communautés. Je rappelle que la France s'est érigée en protectrice des minorités, en particulier des minorités chrétiennes, et plus particulièrement encore de la minorité maronite au Moyen-Orient, au Levant. Donc c'est dans cet esprit de renforcement de l'autonomie et de protection des minorités religieuses qu'elle entame tout un tas de réformes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas raconter dans les détails toutes les étapes de la légalisation, néanmoins. Je précise que la France joue un rôle quand même assez important dans le processus d'institutionnalisation politique des communautés confessionnelles, communautés religieuses.
Et est-ce qu'à l'époque, déjà dans les années 1920, il y a autant de confessions? On en compte 17 à 18. Aujourd'hui, au Liban, il y en a déjà autant?
Non, alors l'acte fondateur, si on peut dire, du confessionnalisme libanais peut être identifié dans un décret de la fin des années, de la moitié des années 30, de 1936, qui pose les bases pour la reconnaissance légale des communautés confessionnelles libanaises. Et donc, à partir duquel se sont structurées au fur et à mesure de l'histoire les 18 communautés qu'on compte aujourd'hui au Liban. Donc on a 12 communautés chrétiennes, 5 communautés musulmanes, pour résumer, une communauté juive, qui est très invisibilisée aujourd'hui, mais dont les effets du statut personnel seraient encore en vigueur. Et donc, ce fameux décret de 1936... est intéressant dans l'histoire du processus de légalisation du mariage civil, puisque non seulement il c'est à l'acte, disons, de institutionnalisation des communautés, mais il offre aussi le cadre pour penser une forme de laïcité au Liban, puisque c'est institué dans ce décret une communauté de droit commun, c'est-à-dire une communauté qui permettrait à tous les Libanais et les Syriens à l'époque qui n'appartient à aucune confession, à aucune communauté religieuse, de, par exemple, se marier sous une loi civile. Donc, malgré l'existence quand même de ces décrets, donc malgré le fait que la possibilité est donnée aux Libanais de se marier civilement, ce décret n'a pas été vraiment traduit dans une loi libanaise, dans une loi civile libanaise. Et du coup, la question d'une loi qui gère les questions du droit commun est toujours à l'ordre du jour. C'est la raison pour laquelle le seul mariage légal reconnu au Liban aujourd'hui est le mariage religieux. Néanmoins, l'État libanais reconnaît les actes de conversion, donc dans les cas de Libanais qui souhaiteraient se marier en dehors de leur confession, puisque... il faut dire aussi, il faut préciser que dans l'ensemble des droits familiaux qui sont d'origine religieuse en vigueur au Liban, pèse de façon générale l'interdit du mariage exogame, du mariage fait avec un membre d'une autre communauté. Alors ça, c'est un interdit qui pèse beaucoup plus lourd sur les femmes que sur les hommes. On pourra rentrer dans les détails plus tard si ça vous intéresse. L'État libanais garantit la conversion. Qu'est-ce que vient faire la jurisprudence qui complète ce fameux décret de 1936? Depuis des décennies désormais, elle offre la possibilité aux Libanais de célébrer un mariage civil à l'étranger, dans le respect de l'ordre public au Liban. Mariage civil qui peut être reconnu et légalisé au Liban après. Donc là, on rentre dans un cadre classique de droit privé international. Mais il y a une particularité au Liban, c'est que les conséquences des mariages célébrés à l'étranger, dans un pays étranger sous une loi civile étrangère sont gérées par, enfin, suivent la loi civile étrangère, même en cas de divorce. Donc ça pose un problème, si on veut parler comme ça, de souveraineté de l'État libanais sur les questions familiales, sur les questions du mariage, les questions familiales, puisque les cours civiles libanaises, les juges, les avocats qui travaillent sur des cas de divorce de couples qui ont fait un mariage civil sont contraints d'appliquer des lois civiles étrangères.
Donc Cathy, qui s'est mariée en 2017 à Chypre, un mariage civil, si elle voulait être divorcée, je ne vous le souhaite pas, Cathy. Les juges libanais, alors maintenant Cathy est en France, mais serait amenée à regarder le droit, ce que dit le droit de chypriote sur le divorce.
Exactement, ce qui fait un souci, puisqu'on peut avoir aussi autant de lois appliquées au Liban qu'il y a de divorces de couples qui se sont mariés civilement. Alors moi, je raconte toujours une anecdote. Un jour, je rentre dans le bureau d'un avocat qui avait le code civil du Texas et qui était en train de le traduire. Donc il y a non seulement un effort de traduction qui doit être fait lorsqu'on utilise un droit qui n'est pas, dont on n'a pas connaissance approfondie, mais d'interprétation aussi d'un droit qui n'est pas un droit national. Alors c'est la raison pour laquelle, par exemple, le droit chypriote aujourd'hui est très, très connu, donc on n'a plus besoin de faire un grand effort d'interprétation, par exemple, mais c'est l'écart d'autres types de droits. Alors, juste peut-être deux précisions à faire sur la question du mariage, puisque ça me permet aussi de dire pourquoi on parle du mariage et l'importance du mariage tout court, pas juste du mariage civil. C'est que, alors, on le sait peut-être, mais tous les Libanais à leur naissance acquièrent une identité confessionnelle par leur père, si le père est Libanais. Et donc il y a cette question de la... On est Libanais parce qu'on appartient à une communauté. Et dès cette appartenance communautaire dépend l'exercice des droits civiques au Liban. Donc tout ce qui relève du droit de vote, le droit même d'exercer dans la fonction publique, de rejoindre l'armée. Donc c'est cette identité, on le verra peut-être, cette identité
confessionnelle
a reçu, ouais. sur laquelle beaucoup de militants... contre laquelle beaucoup de militants luttent aujourd'hui. Et puis une autre question très importante, c'est que dans l'ensemble des droits religieux de la famille du Liban, l'ensemble de ces droits ne reconnaît pas l'enfant naturel. C'est-à-dire que donc, c'est là qu'on porte qu'il y a une grande injonction au mariage, puisque du mariage dépend la légalité, enfin la légitimité de la famille au Liban.
Et cette revendication, qui est donc très ancienne, hein, de légalisation du mariage civil au Liban, c'est donc aujourd'hui un prétexte. Et vous, Michaela, vous parlez de métaphore mobilisatrice pour se libérer de ce pluriconfessionnalisme qu'on a vu très fort, qui est en fait dans l'ADN du Liban. Qu'est-ce que vous entendez par métaphore mobilisatrice ?
J'ai observé, enfin, qu'il y a le champ sémantique du mariage et de la famille, ou de l'amour même, est venu progressivement, et surtout après la fin de la guerre du Liban, qui a duré 15 ans, de 1975 jusqu'en 1990, s'est superposé au champ sémantique de la déconfessionnalisation, voire même de la laïcité, de la question de la laïcité. Et donc c'est au nom de ce passage sémantique, quelque part, que s'est opérée aussi une forme de visibilisation dans l'espace public des militants et militantes et des associations qui luttent aujourd'hui pour la reconnaissance du mariage civil. Et donc j'ai observé un tout petit peu dans les cadres de ma thèse la façon dont le langage au fil du temps a changé, les modes de mobilisation dans l'espace public ont changé, les tactiques mises en œuvre aussi. Et aujourd'hui, on assiste à un glissement de ces modes de mobilisation qui n'est plus de l'ordre, d'un engagement collectif vers une forme d'engagement individuel autour duquel s'est constituée aussi toute une rhétorique très patriotique aussi. puisque voilà, donc c'est pour cela que je parle de métaphore mobilisatrice, pour signifier que quelque part, quand on traite la question du mariage civil, on ouvre une grande boîte noire qui nous permet justement de d'observer l'histoire du l'histoire du confessionnalisme, les rapports de force politique qui sont en jeu, etc. Donc il faut entendre derrière la question du mariage civil la lutte pour la déconfessionnalisation, pour un état non confessionnel que nombreuses personnes appellent civil, Taoula Madaniye. Donc c'est le but commun de ces associations. Et je précise bien que c'est le but commun, puisque, comme je le disais, les tactiques et les modes d'engagement sont très différentes. Et c'est lui d'un état non confessionnel, ou ne serait-ce qu'un état qui récupère son pouvoir sur les questions sur le droit familial. Et alors, une autre chose importante, c'est que ce n'est pas que les buts ou la finalité des associations dites civiles, puisque la question de la déconfessionnalisation, donc de la fin du système confessionnel libanais, est inscrite dans le préambule de la nouvelle constitution de 1990, qui affirme que le confessionnalisme n'est qu'une solution transitoire qui doit être résolue. Et donc, au nom de quoi ces militants, du coup, mènent leur bataille? Je venais de l'évoquer tout à l'heure, il y a la question qui est toujours mise en avant des interdits religieux, le fait de ne pas pouvoir se marier avec n'importe qui. Et en plus, il y a ce mantra qui revient en permanence du confessionnalisme comme d'un mal qui aurait provoqué une guerre civile de 15 ans et qui serait encore source de tous les conflits du Liban.
Et justement, quels seraient les risques aujourd'hui de cette déconfessionnalisation du Liban? Et en quelques mots, les risques qu'on pourrait prendre si on arrivait à cette situation?
Je ne parlerai pas de risques, je dirais plutôt qu'il s'agit de variables que, quand on creuse un tout petit peu la question de la déconfessionnalisation, du mariage civil, émerge. Et je pense qu'il faut peut-être préciser qu'il y a une distinction à faire entre le confessionnalisme, la religion, la communauté, les statuts personnels, puisque c'est exactement dans cette distinction qui existe, qui permet de penser les quatre éléments comme complémentaires mais aussi distincts, qui régit tout le système politique et social libanais et qui crée cette forme de laïcité ou de neutralité, si on veut le dire, qui est propre de l'État libanais, de l'État libanais aujourd'hui. Alors, je suis contrainte peut-être à faire des grandes généralisations, mais je tiens à préciser qu'il y a, on ne peut pas vraiment trancher derrière la question de la déconfessionnalisation ni celle du mariage civil. On ne peut pas adopter une vision très manichéenne. On n'a pas les opposants d'un côté et les favorables au mariage civil de l'autre. Néanmoins, le gros défi aujourd'hui, c'est que de ce système confessionnel, tout le monde, quelque part, arrive à tirer profit. Et donc, si on prend le cas, par exemple, très débattu autour de la question du mariage civil, de savoir pourquoi on n'en est pas toujours à légaliser les mariages civils, on sait que pour certains acteurs politiques et sociaux libanais, il y aurait une crainte du moment où on imagine la fin du système confessionnel comme une... on imagine d'introduire une forme de démocratie, donc de démocratie du majoritaire au Liban, il y a cette crainte de ne pas pouvoir jouer, de ne plus pouvoir jouer un rôle politique dans la société libanaise. Et donc beaucoup de personnes, beaucoup de communautés se posent la question de savoir quelles seraient les conséquences d'une démocratie du majoritaire, sachant que les équilibres démographiques sont très délicats, tout le système confessionnel, le système de répartition du pouvoir au sein de l'administration et au pouvoir politique se fonde sur un recensement de la population qui a eu lieu en 1932 et qui n'a jamais mis à jour depuis. Donc,
bientôt un siècle moins 10 ans.
Et que, quelque part, ce système confessionnel qui est un système qui, il faut le dire, qui est, et c'est ce qu'on voit aussi on a vu très 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 récemment, qui se base sur des formes de cooptation, de patronage, de favoritisme, a renoncer à ce système-là affaiblit la possibilité de pouvoir jouer un poids politique et social au Liban. C'est la raison pour laquelle un recensement officiel n'est pas fait, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore on ne donne pas aux femmes la possibilité de transmettre la nationalité libanaise. Et donc, si on revient à la question du mariage civil, la solution qui convient pour l'instant à la majorité, ou qui est convenue jusqu'à aujourd'hui à la majorité, c'est celle d'avoir un mariage civil neutre à l'étranger. Une autre solution qui fait les consensus aujourd'hui parmi les militants et militantes qui sont le plus en avant dans la bataille pour le mariage civil, c'est la question du mariage civil facultatif. Donc on est dans un cas de figure complètement opposé à celui de la France. La France subordonne le mariage religieux à la légalisation du mariage civil. Alors, le mariage facultatif permettrait ne serait-ce que de subordonner le contrat de mariage des Libanais à la volonté des époux. Et, mais cette solution, comme je le précisais tout à l'heure, j'ai précisé tout à l'heure qu'il ne faut, pas imaginer voilà, cette configuration où on aurait d'un côté les favorables au mariage civil et de l'autre...
Oui, ce n'est pas une situation manichéenne, c'est bien plus subtil et complexe.
Voilà, y compris même au sein de la société civile, entre guillemets, qui demande depuis longtemps le mariage civil.
Et donc... Et justement, le mariage civil, vous, Cathy, c'est le choix que vous avez fait. En 2017, vous viviez encore au Liban. Le mariage civil à Chypre, c'est important de parler de Chypre, qui est à quoi, 200 kilomètres des côtes libanaises.
175.
Cathy, pourquoi, comment on prend cette décision décision d'aller se marier à Chypre quand on vit au Liban?
Bon, dans mon cas, ce n'était pas imposé parce qu'on était sur les papiers de la même religion. Donc, ce n'était pas le cas dans notre cas. Mais comme moi, j'avais participé à toutes ces manifs, j'étais assez militante pour le mariage civil notamment. Et je ne voulais pas que me voir imposer ce mariage religieux. Et donc j'en ai parlé à mon copain à l'époque, qui est mon mari maintenant, et on était d'accord sur le principe. Après, on savait qu'il fallait déplacer tous les gens à Chypre, et c'est une grande mobilisation, et qu'il n'y aurait malheureusement pas tout le monde dans notre mariage. On a eu des personnes de la famille qui n'étaient pas là. Mais
oui, parce
c'était
que c'est
un choix quand même qu'on avait fait.
C'est à peine 200 kilomètres, mais il faut traverser
la mer. Il y a un avion à prendre,
voilà,
il y a des hôtels. Voilà. Donc, et tout le monde, peut-être, n'avait pas les moyens ou la disponibilité ou la possibilité d'y aller. Et donc, on s'était mis ce défi parce qu'on y croyait vraiment, on ne voulait pas le faire. Et moi, je ne me voyais pas du tout faire ce mariage religieux. Et j'ai appelé une agence de voyage.
Je vais demander comment ça se déroule. Le wedding planner est joué par une agence de voyage, en
oui,
fait.
Oui, c'est très facile, il y a des options. Donc, on vous demande, est-ce que vous voulez des témoins? Dans mon cas, j'ai dit non, on a des témoins avec nous, parce qu'il y a des personnes qui vont dans la journée, ils se marient, un couple, ils se marient et ils reviennent. Nous, dans notre cas, on a élargi, on avait des amis, et voilà. Après, ils nous demandent si on veut l'option hôtel, si on veut le vol, combien de personnes, voilà, un voyage classique.
C'est devenu une vraie...
c'est un business, oui. Et toutes les agences au Liban proposaient ce mariage civil, toutes les agages de voyage. Et ça avait un prix et ils s'occupaient de tout. Donc on arrivait à la mairie, on signait et on partait. Voilà. Par contre, on s'était interrogé un peu sur le contrat parce que Michaela en a parlé. Et j'avais posé la question à un de mes meilleurs amis qui était avocat. Et je lui ai dit, ça va être quel contrat quand même? On a signé un contrat, mais c'est quel contrat? Est-ce que c'est des biens communs? Est-ce que c'est une séparation de biens? En cas de divorce, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu les mêmes réponses que Michaela a évoquées. Et bon, à la fin, on ne savait pas trop ce qu'on a signé parce qu'on n'a pas vu le contrat. Donc, on est arrivé, on a signé, on est parti. Et pour l'anecdote, on a été chez le notaire la semaine dernière.
C'est complètement surréaliste vu d'ici.
Voilà. On a été chez le notaire la semaine dernière à Rennes et il nous a demandé le contrat de mariage. Et j'ai dit, bah, on ne l'a pas. Il était, comment ça ? Je lui ai dit, bah, non, on ne l'a pas, on a signé le papier, on est parti. Et à la fin, il nous a demandé si on acceptait la loi française. On a dit oui, mais voilà. Donc, on a maintenant plusieurs contrats, plusieurs droits, plusieurs... voilà.
Donc, attendez, en cas de divorce que je ne vous souhaite vraiment pas, mais c'est la loi française, là ?
Non, c'est pour un appartement.
D'accord, donc là, c'est la loi chypriote. Qui, mais les Français, notamment le notaire, là, un avocat, ne connaissent pas. Et eux, ils seraient obligés de se familiariser avec...
Je ne sais pas.
Non, ça sera la loi française dans ces cas-là, puisque, en l'occurrence, Madame Cathy, réside en France. Donc, c'est la particularité qui n'existe pas au Liban, justement.
D'accord, voilà. La subtilité,
le droit français.
Bah, en fait, c'est ça en France que... Enfin, je ne le souhaite pas, mais ça sera... Alors là, moi, je ne suis pas une experte, enfin, juriste. Il faudrait peut-être creuser un peu la question, mais là, on rentre dans les cadres du droit privé international. Donc, ça sera des accords entre... voilà, je ne sais pas si...
Et retour au Liban, votre mariage est reconnu.
Oui, en fait, ils envoient de Chypre les papiers à l'ambassade libanaise et on va au ministre des Affaires étrangères et on l'enregistre là-bas au Liban.
Votre mariage est enregistré et vous pouvez fonder une famille, oui. Avoir un enfant qui sera
légitime.
Voilà.
Sinon, malheureusement, on met sur son passeport qu'il n'est pas légitime. C'est un enfant en dehors d'un mariage reconnu, oui.
C'est pas le cas de deux musulmans qui s'est mariés civilement, par contre. Il y a une particularité.
Parce que c'est la communauté religieuse qui gère.
Les communautés musulmanes n'ont pas reconnu le mariage civil. Donc deux musulmans qui s'est mariés civilement à l'étranger. Moi, dans mon corpus, dans mon ethnographie, j'ai rencontré aussi des musulmans que pour des raisons idéologiques, parce qu'ils sont athées, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de faire un mariage religieux, sont allés se marier à Chypre ou en Turquie sans parler le turc. Du coup, là aussi, il y a la question de nous ne savons pas ce qu'il y a vraiment dans notre contrat de mariage. Et en cas de divorce, ça sera une cour religieuse, donc une cour charia, qui statuera sur leur divorce. Donc,
il y a vraiment des
particularités qui font que ça s'applique sur le couple mixte ou par mixte, j'entends interreligieux. Sur les couples chrétiens, mais pas sur les couples musulmans.
C'est le rejet du mariage tout court, qu'il soit religieux ou civil. Et est-ce que ce rejet du mariage dans les jeunes générations, notamment libanaises, c'est
une revendication politique.
Bonjour à toutes et à tous. Du coup, oui, évidemment, c'est la demande de mariage civil, c'est la demande d'un droit, mais en fait, au Liban, c'est au-delà de ça, c'est vraiment c'est très politique, c'est un sujet qui revient régulièrement dans les mobilisations au sein de la société civile, parce qu'en fait, la jeunesse, elle n'a plus du tout confiance dans cet État. Et le rejet du mariage tout court vient du fait qu'on croit que si jamais on nous laisse ou on légalise le mariage civil, ça va être à l'image de l'État actuel. Et le rejet vient de là, en fait. C'est qu'on ne veut pas un mariage qui reflète la forme actuelle des institutions. Donc ce n'est pas un rejet du mariage tout court, c'est un rejet d'un mariage civil auquel on ne pense pas avoir confiance parce qu'il va être fabriqué, comme on dit à la libanaise, à la taille de l'État actuel. Enfin, et donc, voilà, c'est, s'il y a un mariage civil qu'on est prêt à accepter, il faut qu'il soit à l'image d'un État auquel on aspire, à une restructuration en fait de tout ce système. Donc le rejet du mariage, c'est le rejet de cette autorité, et c'est pas que le mariage civil, c'est plein d'autres sujets qui reviennent régulièrement, qui reflètent cet État qu'on refuse en fait.
Oui, c'est ce qu'on dit, en fait, depuis le début de cette table ronde. C'est un prétexte, en fait. C'est l'étendard. Il y a tout un tas d'autres revendications. En tout cas, c'est le rejet d'un personnel politique qui est là depuis longtemps. Là, c'est un système aussi. Michaela, vous disiez que le système libanais, aujourd'hui, repose la société, le politique libanais repose sur un recensement de 1932. Donc, pour rappel, le président de la République et maronite, donc chrétien, le premier ministre est sunnite, donc musulman, et le président de la Chambre des députés est chiite, donc musulman aussi, et ça, c'est, ça date, il y a plus, on se base sur un recensement de 32.
En fait, c'est encore plus compliqué que ça, c'est que c'est un pacte oral non écrit qui est à l'origine de ce qu'on appelle les confessionnalismes politiques, qui a été signé, si on peut dire, en 1943, et qui a été reconfirmé en modifiant la question de la proportionnalité au sein du Parlement à la fin de la guerre civile, la guerre libanaise.
En 1990.
Voilà, exactement. La raison pour laquelle, je le disais tout à l'heure, la fin du confessionnalisme, elle est inscrite dans la Constitution. Enfin, elle est inscrite dans la Constitution. C'est une recommandation qui est inscrite dans la Constitution libanaise.
Mais en tout cas, les jeunes générations, mais pas que les jeunes générations, parce qu'il y a des gens des générations de la mienne et encore plus âgés, qui revendiquent aussi, qui est dans le rejet de ce système politique et du personnel politique. Et il y a aussi l'influence communautaire qui est rejetée dans les relations amoureuses, avant même qu'on pense à se marier, quand bien même on aurait envie de se marier. Et ça, vous en témoignez aussi, Rouba. Vous êtes témoin de ce rejet de l'influence communautaire.
Oui, je pense. Enfin, il y a le côté politique, mais aussi le côté personnel. Enfin, comme disait Michaela tout à l'heure, le rejet du mariage civil ou du mariage tout court, c'est aussi peut-être pour faire, inconsciemment, c'est faire reconnaître les relations amoureuses qui sont très réprimées au Liban. Bien sûr, dans certains milieux, surtout dans les campagnes, et selon les communautés, toutes les relations amoureuses des jeunes, des adolescents et les vingtenaires, avant le mariage, sont refusées par les femmes. Les familles, les communautés, et il y a beaucoup de jeunes qui ont une double vie en fait. Il y a beaucoup de relations amoureuses qui se créent dans l'ombre. On n'ose pas les dire à nos parents ou à la famille. C'est notamment surtout les femmes et les filles qui ont du mal à afficher ces relations. Donc voilà, c'est une jeunesse qui veut vivre sa vie, en fait, qui veut expérimenter l'amour en dehors de cette officialisation imposée. C'est que pour être en relation, pour être amoureux, il faut être marié. Beaucoup de jeunes ne le veulent pas. Et moi, je viens des campagnes et je sais que de plus en plus des jeunes partent pour faire des études en ville. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue beaucoup et tant mieux, surtout par rapport aux filles et aux femmes qui étaient vraiment interdites de partir vivre seules en ville. Donc il y a de plus en plus, mais il y a aussi beaucoup de familles encore qui ne le tolèrent pas. Et une grande partie de ces jeunes, quand ils vivent à Beyrouth ou qui partent à l'étranger pour les études, ils ont une double vie. Ils ont une vie vraiment cachée avec leurs amis, leurs relations, et une autre vie quand ils reviennent dans leur village. Ça c'est un sujet qui est très documenté par les médias indépendants au Liban, avec des témoignages souvent anonymes, mais voilà, c'est un sujet.
Des jeunes femmes qui pourraient sortir avec un garçon depuis 2-3 ans et le cacher à leur famille, au village, parce qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, de fréquenter aussi longtemps, il faudrait se marier.
Exactement.
Et qu'on n'a pas envie, ou on n'est pas... Voilà, et ça, c'est un phénomène très fort, donc, actuellement, au Liban.
Je pourrais intervenir. C'est pas que les femmes et les hommes, surtout les homosexuels aussi.
Oui, bah,
c'est
aussi.
Ouais. Là, ils peuvent rien dire, malheureusement. Oui. Et c'est des amours cachés. Ils disent à leurs parents qu'ils sont en colloque, et voilà.
Ouais, c'est une situation délicate. Enfin, on sait que parfois on a envie de partager ce qu'on vit de plus beau dans la vie, c'est-à-dire l'amour et d'être amoureux, amoureuse. Le mariage civil, c'est aussi une revendication au cœur des cultures alternatives, progressistes et transgressives que vous avez notamment, Diane, fréquenté cet été lors de votre voyage. Vous parliez... quand on s'est rencontrés la première fois, d'une forme de résistance et d'une envie de renaissance. Que disent ces gens que vous avez pu croiser de ce Liban actuel, notamment dans les jeunes générations, mais pas que, hein, on ne va pas faire d'agisme, mais que disent-ils aujourd'hui?
Bonjour tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'on sent que c'est un élan mondial, hein. De toute façon, il y a une influence internationale, ça c'est le beau côté de la mondialisation. Mais on sent que chacun souhaite se créer une vie sur mesure, en fait. Il n'y a plus de dictat, de grandes lignes. Dans la vie, il faut passer par tel point, tel point, tel point pour avoir une satisfaction, que ce soit au sein de la communauté, que ce soit dans l'intimité familiale, etc. Donc, on assiste vraiment à une écoute de la jeunesse que j'ai rencontrée cet été. C'était certaines personnes, bien sûr. On est en ville, globalement. Les religions sont un petit peu présentes dans le cœur, mais sont éloignées dans le quotidien, dans une certaine pratique. Et on assiste vraiment à une écoute profonde, en fait, intérieure. Et donc, chacun ose se créer ses vies sur mesure, de choisir l'univers dans lequel il a envie d'évoluer, de choisir sa carrière professionnelle, de choisir son schéma intime, donc amoureux, son schéma, son statut, couple ou pas couple, enfant pas enfant, etc., mariage pas mariage. Et donc, on sent qu'il y a une très belle écoute au sein de la jeunesse de « tu n'es pas bizarre, tu n'es pas étrange, tu n'es pas en rébellion, tu es juste à l'écoute de toi-même ». Et donc, il y a quelque chose d'assez pur qui se dégage de cet élan-là, en fait. Et je pense que c'est un effet assez mondialisé. On est à l'écoute, mondialement. Voilà, il y a des côtés vraiment terribles dans la mondialisation, on ne va pas les énumérer. Et il y a des côtés très très beaux, qui sont justement l'élan humain un peu de s'écouter, en fait, et pour être beaucoup plus prospère dans sa vie à soi, en fait.
En fait, c'est le fait de ne pas vouloir de ce schéma de vie, comme vous le disiez, je rencontre quelqu'un, je sors avec 2 mois, il faut que je me marie, j'ai des enfants et que je fasse un mariage religieux, et je mets de côté toutes mes envies, peut-être mes orientations sexuelles aussi, parce que ce que vous venez de souligner, Cathy, sur l'homosexualité, ne fait pas de vous quelqu'un de bizarre, ça, je pense qu'on est nombreux à le penser et à le croire, et à ne même pas en faire une question, en fait. Là, la question, elle se pose, mais comme dans beaucoup de pays, et c'est important ce que vous soulignez là, Diane, parce qu'en France, on pourrait aussi dire que... Il y a une frange de la population qui peut refuser le non-parcours tracé qu'on a imposé depuis des décennies. Et vous parliez des villes. C'est surtout une population des villes que vous avez croisées, mais pas que de Beyrouth. Est-ce que vous pouvez nous citer les villes que vous avez visitées et un peu le parcours que vous avez fait cet été?
Alors, je suis quand même restée essentiellement à Beyrouth. Étant un peu à... J'étais en enquête un peu pour trouver les sujets pour mon prochain documentaire. J'ai voulu me concentrer vraiment sur ce territoire-là, donc je suis restée dans cette ville. C'est extraordinaire parce que le Liban est tout petit, donc ça se croise très très vite. Ça, c'est l'avantage de ce pays, parce qu'il y a plein d'avantages aussi dans ce pays. C'est important de le dire. Donc le Liban est tout petit, donc il y a un brassage quand même. La population tourne, voilà. Donc à Beyrouth, il y a vraiment de tout. C'est d'autant plus libanaise que vous pouvez le préciser, mais je suis une néo-libanaise, du coup. Donc il y a beaucoup de gens quand même, des campagnes, qui veulent vivre leur vie. Et en fait, la ville est vraiment l'espace où c'est possible quand même. L'éloignement familial aussi. L'anonymat, très important. Il y a plein de gens qui sont... dits particuliers dans des endroits où il y a 5000 habitants, 10 000 habitants, ils sont tout de suite repérés. Il y a un focus sur ces personnes différentes. Et donc l'anonymat de la ville, j'ai rencontré beaucoup de gens particuliers dans leurs auras, on va dire ça comme ça, et dans leur choix de vie. Et en fait, ce qu'ils ont apprécié aussi, c'est de pouvoir traverser sans qu'on dise « Ah tiens, c'est bizarre. Ah tiens, c'est le différent. Ah tiens, c'est le marginal. Ah tiens, c'est le... » etc. On peut avoir tout un jargon de ça. Et donc, il y a ce plaisir aussi d'anonymat en ville, de sans les la-la-la, qui sont présents dans plein de cultures internationales.
Oui,
et
oui.
Au Liban,
c'est... J'allais vous le dire, c'est exactement la même chose ici en France. Vous disiez que ces gens que vous avez croisés, ces nouvelles générations, il y a un point commun et très très fort, c'est qu'elles ont... envie, besoin de s'amuser après des années, ils sont encore là, enfin, dans un pays en grande difficulté. Après 2019, on pourra consacrer les dernières minutes de la conférence, de la table ronde à ce qui s'est passé en 2019 et depuis. Mais en tout cas, elles sont avides de divertissement, d'amusement, de joie. Ça, c'est, vous l'avez vraiment, ça vous a marqué.
Bah, c'est la fête, c'est une signature libanaise. Le Liban a fait quand même ses années d'or, son âge d'or, on va dire, à peu près années 50 jusqu'à 75, à peu près, quand même sur les grandes fêtes, à plein de niveaux. Grandes chanteuses, on sort, les Libanaises, les Libanais, quand ils sortent, c'est quelque chose, quoi. On se prépare, on passe dans une autre dimension. Donc c'est culturellement très, très ancré, le principe de fête, même en campagne. Le principe de fête, que ce soit par la religion, que ce soit par le divertissement, l'évasion du quotidien, etc. Le Liban est réputé pour énormément d'univers fêtes, voilà, à plein de... Donc que ce soit les grandes cantatrices orientales, que ce soit le milieu de la rave techno, que ce soit le milieu hip-hop aussi, rap, il y a beaucoup de choses. En pleine Sahara, donc en pleine révolution, le Dabke était très présent, donc le dabke, danse traditionnelle patrimoniale libanaise. Donc c'est une danse qui se danse, on se tient les mains, et donc il y a des frappés du pied dans le sol, et en fait le dabke a donné l'énergie de tenir la révolution. Elle a carrément une fonction, la fête et le mouvement et la danse a carrément une fonction pour ne pas lâcher en fait. Et donc là, à ce niveau-là, ça devient extraordinaire. C'est plus du là, c'est du... C'est ça, donc là il y a vraiment cet élan-là, et aujourd'hui on a, avec cette double explosion, voilà, on ne va pas donner d'adjectif, qui s'est passé en août 2020, le milieu de la fête libanaise a pulvérisé. C'était très grave ce qui s'est passé. Et donc il y a eu vraiment une déprime concrète déjà que la jeunesse, avec un Covid, ne peut plus quand même se croiser, ne peut plus faire la fête, etc. Ça a été international. Mais en plus de ça, les lieux de rassemblement d'une jeunesse jeune et moins jeune ont soufflé. Donc il a fallu créer un nouvel horizon de ça, on va dire, voilà, une nouvelle structure à la fête et aux endroits de rassemblement, aux bars aussi, même pour boire un café l'après-midi, hein, ça a été soufflé. Et donc on assiste aujourd'hui à une réorganisation de tous ces espaces-là, mais ça ne vient pas des gouvernements, du système, etc. Ça vient des gens. Et là, ça devient génial. Parce que ce sont eux qui s'organisent entre eux pour créer leur lieu, avec leur code, avec leurs lois, avec leurs organisations internes, avec leur financement. Et à partir de là, on ne peut rien leur dire. Et là, il y a une révolution qui est en train de se faire.
Est-ce qu'on pouvait attendre, de toute façon, à des politiques sur place qu'ils fassent quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas une paralysie à leur niveau ? Je pose vraiment une question, hein, je vous la pose peut-être à toutes les quatre. Une paralysie à ce niveau, au niveau du personnel politique et peut-être même des fonctionnaires, de pas bouger forcément les choses.
Il y a des urgences. L'urgence, c'est la santé des gens. L'urgence, c'est les infrastructures publiques, donc c'est les routes, c'est le port, c'est etc. L'éducation, les approvisionnements de matières premières. Enfin, il y a énormément d'urgences, en fait. Donc, d'un coup, un club techno, je peux vous dire qu'il passe en dernier sur la liste. Malheureusement, il est essentiel. Donc, c'est là où il y a une impatience. Et en fait, les Libanais sont tellement en plein soupir permanent et ils sont courageux, ils méritent tous des médailles, que du coup, en fait, cette impatience-là, la hiérarchie des urgences, en fait, elle est à chacun. Et donc, il y en a qui s'organisent entre eux, qui prennent la main, qui prennent leurs économies, qui prennent leur détermination et qui mettent les choses en place.
Cathy, oui, vous vouliez...
Oui, bah moi, je vais au Liban la semaine prochaine, mercredi. Et la première chose que j'ai faite, c'est de réserver dans une boîte où j'aimais aller, qui avait fermé après l'explosion. Et j'étais tellement contente que ça rouvre de nouveau. Ça donne un espoir de vie. Et bah, on va se rassembler avec tous les copains. Une manière de célébrer cette renaissance d'un espoir.
Oui, de l'espoir, mais qui n'a jamais quitté les Libanais.
Oui, mais à un certain moment, c'était après l'explosion, dur de voir ça renaître. Et heureusement, ça recommence à renaître.
Ça recommence à renaître avec ce prétexte, on a parlé de prétexte de revendication du mariage civil, qui est au final une question très importante, parce qu'on l'a vu aussi avec vous, Rouba, ça régente les vies amoureuses des jeunes Libanais et Libanaises. Vous le ressentez, vous-même, si aujourd'hui vous êtes à Tours et à Rennes, hein, parce que vous travaillez aussi à l'université de Rennes, vous le ressentez, vous aussi, puisque votre thèse porte sur Beyrouth et sa banlieue sud, ce mouvement, cet espoir, cette renaissance, cette envie de joie et de fête.
Oui, je pense que c'est vraiment une caractéristique libanaise qui a toujours résisté, existé. Et y a toujours cette mobilisation par le bas, si on veut, pour faire renaître les choses au Liban. Mais je pense aussi, en même temps, les Libanais sont fatigués et ils sont, depuis un moment, très opposés à ce concept de résilience qui devient très dangereux au Liban. Et on n'en veut plus de ça, en fait. On veut juste un État qui sera là pour nous. On ne veut plus faire les choses nous-mêmes. On ne veut plus aller balayer les rues quand l'explosion a eu lieu. Ça, c'est vraiment l'image de cette résilience avec nos balais en train de ramasser le verre. On n'en veut plus. On le fait parce qu'on est Libanais, on y tient. Mais au final, on veut qu'il y a une construction et une restructuration politique profonde de l'État pour avoir des droits et être libre. Enfin, et après, je pense que 2019 était une étape cruciale et très importante malgré toutes les drames qui ont suivi. Mais moi, je pense qu'il y a avant et après.
Vous voulez bien rappeler les événements de 2019 ?
Oui, alors c'était en octobre 2019. Le mouvement a commencé parce qu'il voulait imposer une taxe sur l'application WhatsApp. Et donc, il faut savoir qu'au Liban, les appels téléphoniques sont très chers et cette application, elle était vraiment très importante. C'est le moyen le plus important pour communiquer parce que c'est le moins cher. Et donc cette taxe WhatsApp a fait que, après beaucoup de dysfonctionnements, il y a eu beaucoup d'incendies cet été-là, qui ont été très mal gérés, beaucoup de montagnes ont été ravagées, et donc il y a eu ce mouvement sur le WhatsApp, mais il faut savoir que le mouvement, c'était pas là contre la taxe WhatsApp, c'était contre tout le dysfonctionnement de l'après-guerre depuis les années 90. Déjà, le chômage augmentait de masse, même bien avant 2019. La crise était très profonde et donc là, c'était juste
l'étincelle.
Mais c'est pas la taxe WhatsApp qui a provoqué tout ce mouvement qui a duré des mois. Et c'est un mouvement qui a été de masse, quoi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens dans la rue. Et donc, certains disent que c'est un échec, mais évidemment pas. C'est pas un échec. C'est vrai qu'il y a une crise très profonde aujourd'hui, mais c'était une étape très importante. Et on sait que les changements se construisent sur le long terme. Et moi, donc, j'étais pas en octobre 2019, mais je suis arrivée un peu après. Et en fait, vraiment dans les esprits, j'ai vu qu'il y avait avant et après 2019. Même les gens dans leur quotidien parlaient de avant octobre 2019. Même il y a beaucoup de questions qui se sont démocratisées. Justement, le mariage civil n'est plus le tabou qu'il était avant. Pareil, là, de mon expérience dans la campagne libanaise, c'était un sujet très refusé. Je pense que les gens, ils avaient du mal à imaginer comment ça peut être un mariage civil, comment on peut l'accepter. Et après 2019, octobre 2019, ça devient un sujet. On peut en parler. Peut-être qu'il y a beaucoup qui ne l'acceptent pas forcément parce qu'ils sont croyants. Mais on peut entendre ceux qui veulent un mariage civil. C'est un sujet parmi tant d'autres qui n'est plus tabou et qui est démocratisé.
Et notamment pour cela et pour tant d'autres choses, la date d'octobre 2019, elle restera comme une date importante, un avant, un après. Je vous remercie, mesdames, d'être venues, de nous avoir raconté ce Liban-là. Je vous propose à présent qu'on écoute Liliane Shreim et Gaëlle. Bonjour, voilà, ils sont là et ils vont sans doute monter sur la scène. De suite et je vous propose qu'on écoute ce concert qui est autour du répertoire de Férouz.
Merci.
Sarandar